13h à Mboki dans le Ombomo. C'est l'heure de suivre le journal de Radio Ndekeluka, une présentation de Martial Steven Betisinga. Martial, bonjour.
Bonjour Nina Verdiani-Abodi, confort d'écoute à tous. À la une de ce journal, c'est une plainte des habitants de Mboki dans le Ombomo. Ces derniers temps, ils font face aux exactions récurrentes des anciens miliciens en Épigbé devenus FAKA dans la localité. Au sommaire également, un corps sans vie d'une fille âgée de 20 ans a été retrouvé hier au bord de la rivière Ubongi au quartier Semé à Mobaï. Les circonstances de la découverte du cadavre à suivre. Le gouvernement s'indigne de l'article conjoint d'un site d'information The New Humanitarian et le journal Le Monde accablant le contingent rwandais de la MINUSCA d'abus sexuels. Selon son porte-parole Maxime Balalo, cela vise à discréditer ce contingent. Basketball, la première fenêtre de la balle se déroulera du 27 de ce mois au 1er novembre prochain à Douala au Cameroun, mais rien n'est encore sûr à propos de la participation du club Abeille à cette compétition.
À la une de ce journal martial, la population de Mboki dans le Ombomo se dit dépassée par des exactions des forces armées centrafricaines.
Des scènes de braquage, pillage et violence sur les civils sont récurrentes. Armando Yangenzi, même les autorités locales sont inquiétées par cette situation.
Il ne se passe pas un seul jour sans que Mboki et ses environs ne soient touchés par des exactions des forces armées centrafricaines. Avant-hier, deux chefs de quartier ont été passés à tabac. Leur seul péché est d'orienter les deux anciens rebelles à la gendarmerie pour le désarmement volontaire. Ce qui n'a pas rencontré l'agrément des FAKA, un habitant sous couvert de l'anonymat témoigne.
Ils ont commencé par des séries de braquages, de pillages, de vols. La semaine passée, deux éléments de l'UPC se sont fait désarmer à la police et cela a suscité le mécontentement de ces jeunes FAKA. C'est ainsi qu'ils ont arrêté deux ardos, chefs de quartier. Ils les ont braqués et pillés et en ce moment, ils se trouvent à l'hôpital.
Ces deux chefs de quartier, Mando et Lamoussa, avec des bras cassés, sont pris en charge par des autorités sanitaires. Ils expliquent ici leur calvaire.
Nous n'avons rien fait du mal. On nous a reproché de remettre les deux anciens rebelles de l'UPC à la gendarmerie pour le désarmement. Nous avons dit que la gendarmerie est une institution de l'État. On nous a bien dit que si quelqu'un veut se désarmer, qu'on l'oriente à la gendarmerie pour son identification. Ils nous ont frappés presque à mort. Nous avons été roués de 50 coups chacun. Moi, chef du village, mes deux bras sont cassés. Les autorités nous ont rassurés qu'elles vont remonter l'information.
Nous sommes toujours en étroite collaboration avec le sous-préfet, les responsables des FAKA, de la police et de la gendarmerie. Mais avec cette situation, est-ce que les rebelles vont accepter de sortir et déposer les armes? S'il y a la paix et s'il n'y a plus d'armes, les gens pourraient vaquer à leurs occupations. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Si les gens déposent les armes, on les tue. Ils ne vont pas sortir.
Ces informations sont confirmées par les autorités locales, mais elles ne souhaitent pas parler à notre micro de peur d'être prises à partie. Week-end dernier, les anciens miliciens zandiens Nikpigbe incorporés dans l'armée ont ouvert le feu pour récupérer les deux anciens rebelles des armées protégées par la gendarmerie de Mboki. D'autres exactions commises par ces porteurs de tenue ont été aussi signalées à 70 km de Rafai, cette fois-ci dans le Mbomo. Ceci, en plus des violations perpétrées par des présumés éléments de l'UPC.
À Mobaï, dans la Basse-Côte, des pêcheurs ont retrouvé hier le corps sans vie d'une jeune femme âgée de 20 ans.
La découverte a eu lieu sur la rivière Ubongi au quartier Semin, dans le groupement de Bamagi. Selon les témoignages recueillis par Radio Ndekeluka, la victime était une habitante du village Fiato, à plus de 45 km de Mobaï, axe Satema. Les mêmes sources indiquent qu'elle s'est noyée avec son bébé de 5 mois, mais ce dernier est toujours introuvable. La gendarmerie locale a ouvert une enquête. Max Sangou, chef du quartier Semin, témoigne au micro de notre correspondant, le destin Saraga.
Précisément à 2h du matin,
à 2h du matin, les pêcheurs sont partis exercer leurs activités, mais ils ont découvert le corps sans vie de cette femme accrochée à leur filet. Automatiquement, ils sont venus m'informer. En tant que chef de quartier, je suis descendu sur le terrain. C'est ainsi qu'on a ramené le corps dans la ville grâce à une pirogue. On n'a pas retrouvé le bébé. La femme était à moitié habillée. On a vu une petite plaie sur l'une de ses joues et du sang coulait encore de sa bouche et de ses narines. Le cadavre ne porte pas les traces des coups de couteau ni des agressions d'un animal sauvage. C'est aujourd'hui que son mari nous a dit qu'elle avait quitté le village Fiato sur le barrage pour venir ici à Mobaï.
Thank you. Le porte-parole du gouvernement réagit suite à l'article conjoint publié par les sites d'information de Neo Humanitarian et le journal Le Monde.
Cet article publié le 16 de ce mois accable le contingent rwandais de la MINUSCA d'abus sexuels. Pour Maxime Balalou, il s'agit d'une manipulation visant à ternir l'image de ces soldats onusiens. Il a également donné la position du gouvernement sur les victimes des inondations dans le pays. Position exprimée hier lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Bangui. On en parle avec Nathan de Saint-Stéphane.
Ce rapport a mis en cause les casques bleus de la MINUSCA, notamment le contingent rwandais qui aurait commis d'abus sexuels dans certaines localités du pays. Des partis politiques ont même demandé à la mission onusienne de rapatrier ces soldats de la paix accusés. Pour Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain, ces allégations sont tendancieuses.
Je voudrais aussi réagir concernant d'autres allégations. Ces allégations concernent l'exploitation ou des abus sexuels à l'encontre des troupes rwandaises dans notre pays. Ces troupes-là, en bilatéral, soutiennent le gouvernement. Et nous sommes surpris qu'au moment où nos coopérations sont plus et plus renforcées, et voilà, on sort dans le tiroir. Et nous connaissons les méthodes qui sont utilisées derrière ces accusations contre les forces rwandaises en Centrafrique, ont vraiment pour un seul but, c'est-à-dire discréditer les relations particulières que notre pays entretient avec ce pays frère et froisser les bonnes relations entretenues entre le Rwanda et notre pays.
Alors que les victimes des inondations dans le pays attendent toujours du gouvernement son appui, Maxime Balalou, ministre de la Communication, les exhorte à quitter ces lieux inondés.
Nous sommes dans le cadre des bouleversements climatiques. Nous, au moins, on n'a pratiquement pas de victimes. Nos moyens sont limités, mais nous les exhortons à quitter ces lieux-là. Nous avons dit, mais ça ne suffit pas. Il y a un travail qui se fait par le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Action humanitaire. Mais il faudrait qu'ils quittent. Là, on veut les reloger maintenant. Ils n'ont pas d'alternative. Ils doivent quitter. Voilà, Kwalungo, il faut qu'ils quittent. Parce que s'ils insistent, ils vont vivre la même chose.
Selon des prévisions météorologiques, il y aura plus de victimes d'inondations cette année en RCA.
Et puis, Martial, des réactions se multiplient après la publication du rapport du groupe de travail de la société civile GTSC sur le secteur pétrolier centrafricain.
Oui, Verdiane, la dernière en date est celle de l'entrepreneuriat panafricain, une plateforme de la société civile. Cette organisation estime que le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts pour lutter contre la contrebande et la pénurie du carburant dans le pays. Pour cette plateforme, ce rapport du GTSC manque d'objectivité, c'est-à-dire qu'il ne détaille pas les efforts consentis par les autorités. Julius Ndalako Wailo, secrétaire général de cette plateforme de la société civile, réagit au micro de Armando Yangenti.
Il y a eu un manquement. Parce que quand j'ai lu le rapport de notre compatriote Beninga, ça lui a pris du temps. 7 mois pour pouvoir élaborer, entre guillemets, si ce délai-là était vrai. Mais nous, on veut juste amener un autre élément de réponse. Par exemple, chacun de nous a son angle de vue. Et donc, notre souci, c'est quoi? De faire en telle enseigne qu'on arrive à synchroniser cet angle de vue-là pour donner un ensemble de vues à tout le monde. C'est ça notre rôle. Nous sommes dans un domaine de recherche des solutions idoines pour l'amélioration de la qualité de vie des centrafricains que nous sommes. Il faut reconnaître aussi la souveraineté d'un État. Quoi qu'il y ait, il y a toujours ce qu'on appelle le principe de l'intégrité d'un pays qui est en jeu. Passer ce rapport met en difficulté la RCA. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui pensent que nous avons mis en place un système de contrebande qui amène des carburants de mauvaise qualité qui, de fois, a des impacts négatifs sur les usagers. La contrebande n'a jamais profité à la fiscalité d'un pays. Au jour d'aujourd'hui, certains de nos confrères qui ont une motocyclette ou soit une voiture, mais ils s'arrêtent plus au bord de la route pour acheter du carburant. Je raisonne comme un centrafricain de la rue qui arrive à satisfaire son quotidien et hop, le lendemain, il le laisse entre les mains de Dieu ou entre les mains de nos dirigeants.
Autre actualité, l'Institut centrafricain de la recherche agronomique ICRA, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, s'investit pour réduire l'utilisation des produits chimiques dans les champs.
Pour y parvenir, une vingtaine de jeunes ont appris des nouvelles techniques de préparation des pesticides à base des plantes locales. Ces produits bio leur permettront désormais de traiter les maladies qui s'attaquent à leurs champs. Et Dalotine Diko a assisté aux exercices pratiques à l'ICRA.
On met le charbon et non la paille, exactement comme les mains.
Ces maraîchers sont dans l'exercice pratique de la composition des produits biologiques qui leur permettront désormais de traiter les maladies qui détruisent leurs champs. Ces techniques vont remplacer l'utilisation de l'engrais chimique et des pesticides toxiques pour la santé. Albert Mobeyang, expert à l'ICRA, explique les étapes de cette formation.
On les a amenés ici pour les initier sur les techniques de production maraîchère bio. Parce que les positions maraîchères qu'ils ont l'habitude de faire, ils font avec l'engrais, ils font avec les insecticides, et c'est toxique pour les gens qui consomment. Maintenant, tu ne constates pas, mais à long terme, ils vont constater ça. On les forme sur le système de gestion, on les forme sur les itinéraires techniques, on les forme sur la manière de fabriquer les biopesticides et on les forme aussi sur la manière de fabriquer le compost.
Félix Alabarem, directeur de biotechnologie à l'ICRA, parle des conséquences de l'utilisation des produits chimiques dans les champs.
Les produits chimiques agissent à trois niveaux. Quand on utilise disent que ça pénètre dans le sol, que ça pollue le sol, ça peut aussi polluer la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, ça peut sortir dans les sources à des dizaines, vingtaines de kilomètres. Le second effet, c'est que les produits chimiques même détruisent l'écologie locale. Avec les produits, ils vendent sur le marché et quand on mange ces crudités-là, on ingère directement. Leur conséquence, c'est que ces produits chimiques peuvent s'accumuler au niveau des organes de reproduction qui sont les testicules ou les ovaires chez les femmes. Ça peut aussi s'accumuler dans les organes vitaux tels que le rein, le foie.
Sosten Kayenge promet capitaliser les acquis de cette formation pour le bien-être des consommateurs de légumes crus.
Une fois rentré, je vais leur expliquer ce qu'on nous a appris ici et après je vais aussi produire ça, composer les herbes ou bien les composantes pour le compost et le produit. Après, je vais leur montrer, voilà l'avantage du compost. Ça nous aide à beaucoup multiplier nos cultures. Et après cela, ils vont aussi s'adapter à ça.
Ce projet pilote dénommé par CBSARC cible une trentaine de jeunes maraîchers de Bangui et Boire. Il vise à réduire l'utilisation des produits chimiques dans les activités agricoles.
Hors de nos frontières, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP16 a démarré hier en Colombie.
C'est sur le slogan « Paix avec la nature ». L'objectif de cette 16e conférence de la Convention de l'ONU sur la biodiversité est de débloquer les moyens financiers nécessaires pour respecter les objectifs de stopper d'ici 2030 la destruction de la biodiversité par l'humanité. Il y a 2 ans, à la COP15, les délégués des 496 pays membres de la Convention de l'ONU sur la biodiversité se sont engagés à mobiliser 200 milliards de dollars par an, des fonds destinés à stopper et inverser d'ici 2030 la destruction des terres, des océans et des espèces vivantes indispensables à l'humanité. Mais à ce jour, seuls 34 pays ont respecté leur engagement de présenter ces stratégies complètes.
Un opposant sénégalais candidat aux législatives du 17 novembre prochain a été emprisonné hier pour rébellion et outrage.
C'est après avoir tenté samedi dernier de forcer un barrage de gendarmes pour se rendre sur les lieux de sévères inondations dans l'est du pays, selon son avocat. Les gendarmes disent avoir stoppé son cortège le temps de laisser passer celui du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, également dans la région. Bougane Gueye sera jugé le 30 octobre en flagrant délit. Claire Suzanne Dinga pour les sports. Bonjour Claire.
Bonjour à vous Martial, Steve Metisinga. Bonjour à toutes et à tous.
Basketball, l'inquiétude plane encore sur la participation du club Abeille, champion de la RCA à la première fenêtre de la qualification pour la balle.
Effectivement Martial, la délégation devra quitter Bangui avant-hier pour Douala au Cameroun pour la compétition. L'incertitude demeure si le club participait à cette fenêtre ou non. En dépit de cette incertitude, le club poursuit les entraînements au Palais des Sports à Bangui. La première fenêtre de la balle se déroulera du 27 de ce mois au 1er novembre prochain à Douala au Cameroun.
Basketball sur fauteuil roulant, les Fauves de Bazoubongui des moins de 23 ans vont quitter Bangui ce vendredi pour Kinshasa en RDC.
Au total, 12 joueurs sont retenus pour ce tournoi. Cette compétition de la zone Afrique centrale est qualificative à la phase finale de Tripoli et au préliminaire qualificatif au championnat du monde des U23 au Brésil. Le tournoi se déroulera du 25 de ce mois au 2 novembre prochain.
Football clair, les inspecteurs de la CAF sont attendus la semaine prochaine à Bangui pour la validation des travaux de réhabilitation partielle en cours du complexe sportif Barthélémy Bouganda.
Cette visite tant attendue par les centrafricains permettra d'évaluer l'état d'avancement des travaux, de s'assurer s'ils répondent aux normes requises pour accueillir des compétitions internationales. Ces travaux lancés en mars dernier se sont intensifiés ces derniers mois pour permettre à la République centrafricaine de rejouer des matchs à domicile. Cette inspection pourrait sceller le sort du match retour entre la République centrafricaine et le Gabon prévu en novembre prochain. Une rencontre qui s'annonce décisive dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.
Football à l'international, démarrage ce soir de la 3e journée de la Ligue européenne des champions.
2 matchs sont prévus à 17h45. Milan AC Club Brugge et Monaco Étoile Rouge de Belgrade. 6 autres matchs sont à l'affiche à 20h. Aston Villa reçoit Bologne. Girona joue contre Slovan Bratislava. Juventus de Turin accueille Stuttgart. Duel entre entre Paris Saint-Germain et PSV Eindhoven, Sturm Graz, Sporting Portugal, Shakhtar Donetsk se déplace pour affronter Arsenal, puis duel entre Real Madrid et Borussia Dortmund.
Football à l'international toujours clair. Un an après sa blessure, le Brésilien Neymar a rejoué hier avec son club Al Hilal en Arabie Saoudite.
Effectivement, un an après sa grave blessure au genou gauche, Neymar a rejoué hier le match de la Ligue des champions asiatiques entre son club Al Hilal qui s'est incliné devant Al Ain 4-5. Neymar est entré en jeu à la 77e minute.
Merci à vous Claire, Suzanne Dinka et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité d'écoute, mais ne quittez pas la version Sango, c'est tout de suite.